marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
On laisse reposer les bêtes parce qu'elles coûtent cher à remplacer, et pas nous.
Parlons travail.
Mesdames, messieurs, le destin de l'Organisation internationale du travail la porte à l'universalité, car le règne de la justice est un idéal qui ne saurait admettre de frontières. Citation, la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Fin de la citation, déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944.
Citation de Gaston Tessier, grand syndicaliste français, à Genève, à l'Organisation internationale du travail. Par deux fois, en effet, à l'issue de chacune des deux guerres mondiales, un sursaut s'est produit dans les consciences. En 1919, en parallèle avec la Société des Nations, est créée à Genève, donc une organisation internationale du travail. Sans justice sociale, affirme-t-elle, pas de paix durable. L'Organisation internationale du travail est la seule institution du système des lendemains de la Première Guerre à avoir survécu à la Deuxième. Exilée outre-Atlantique entre 1940 et 1945, elle publie donc dès le printemps 1944, avant même la création de l'ONU, cette déclaration de Philadelphie à laquelle il était fait écho et qui reprend les questions posées à la création de l'OIT. Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain et comment peut-il s'établir à travers le monde si telle ou telle nation ne veut pas le prendre en compte? À l'époque du travail taylorisé, le périmètre des régulations possibles portait surtout sur le montant des salaires, le temps de travail, notamment des femmes, les accidents du travail, les libertés syndicales. À notre époque, les terrains qui nécessiteraient intervention sont beaucoup plus mouvants. Après la révolution cybernétique et numérique, la main-d'œuvre devient cerveau d'œuvre. On attend que, réagissant aux multiples signaux qui lui sont envoyés, ce cerveau d'œuvre atteigne des objectifs chiffrés. Nous sommes au temps de la gouvernance par les nombres et aussi du marché total qui engage les individus dans une compétition sans fin. Le travailleur en réseau de l'ère numérique n'a souvent d'autres ressources que de se mettre sous la protection du plus fort, en s'assurant des services du plus faible, hommage et servage. C'est pas qu'on soit retourné au Moyen-Âge, mais les structures féodales reviennent en force. Et le droit du travail est sans doute plus que jamais nécessaire pour conjurer la puissance mortifère de l'anarcho-capitalisme.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Alain Supiot, bonjour.
Bonjour.
Professeur au Collège de France depuis 2012, avec une chaire dont l'intitulé que vous avez déterminé dit beaucoup, État social et mondialisation. Alors, parlons travail, juste une indication pour nos auditeurs. Vous organisez un colloque demain et après-demain au Collège de France sur cette question du travail au XXIe siècle.
Oui, c'est un colloque qui est organisé d'ailleurs avec le soutien de l'Organisation internationale du travail qui vient d'être mentionnée et qui vise un peu à faire charnière entre l'expérience du siècle passé, puisque c'est le centenaire de cette organisation, et les nombreuses questions qui se posent pour le travail au XXIe siècle.
Oui. Alors sur notre site, toutes indications quant à ce colloque. Je peux vous raconter une anecdote. Dans le train vers Clermont-Ferrand, il y a quelques mois, un jeune homme, élève d'une école d'ingénieurs, m'aborde et me dit « Mais alors, à force de vous entendre parler du Collège de France, je suis allé au Collège de France. » C'est extraordinaire aussi comme expérience d'être professeur au Collège de France. Ça fait 6 ou 7 ans maintenant pour vous.
Mais c'est une expérience excitante et qui n'est pas si aisée qu'il y paraît. La première fois où on m'a parlé de ce malaise, c'est Pierre Bourdieu qui m'avait invité à déjeuner et qui m'a dit « c'est écrasant cette maison ». Et à l'époque, je ne voulais pas le croire, je savais le nombre d'heures qu'il avait à faire. Et depuis que j'y suis rentré, je comprends de l'intérieur ce qu'il voulait dire à l'époque.
Bah oui, parce que c'est comme quand vous adressez aux auditeurs de France Inter, vous vous adressez à des auditeurs à la fois libres et déjà cultivés. Une des originalités de votre réflexion, Alain Supiot, c'est de mener d'un même pas la réflexion sur l'art et sur l'imaginaire. la réflexion sur la technique et la réflexion sur le droit. Et je voudrais qu'on prenne un exemple qui fasse image. Vous décrivez, parce que vous vous intéressez beaucoup au Moyen-Âge, la place du marché, la grande place de Bruxelles.
Oui, c'est une image qui m'a souvent servi pour essayer d'expliquer ce qu'était un marché aux étudiants, puisque nous sommes à l'ère où on pense que toute activité humaine doit se dérouler sous l'égide du marché, être ramenée à un calcul marchand. Eh bien, dans cette construction architecturale, qui est aussi symbolique de la Grand Place, pour ceux qui sont allés à Bruxelles, ils savent que c'est l'un des plus beaux endroits où l'on puisse se tenir à Bruxelles. Eh bien, d'abord, la première chose qui frappe, c'est que c'est un lieu délimité. Donc, si l'on sort de cette place, on n'est plus au marché. Ou alors, si l'on dit que au Palais Royal ou bien au Palais de Justice, ce sont les lois du marché qui s'appliquent, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice impartiale et donc qu'il ne peut plus y avoir de marché possible pour d'honnêtes marchands. L'autre chose qui frappe dans cette place, c'est qu'elle est cernée par des bâtiments qui montrent que le marché doit être institué. Il y a des bâtiments qui sont les corporations, c'est le statut donné au travail, et il y en a d'autres. C'est l'hôtel de ville, c'est la garantie des poids et mesures, l'idée qu'il y a une loi qui s'applique également pour tous dans cet espace qui est l'espace marchand. Donc le marché n'est pas une sorte de deus ex machina qui viendrait guider indépendamment des volontés humaines notre sort. C'est une construction institutionnelle qui demande sans cesse à être réfléchie, repensée et réajustée.
Avec des lieux de régulation. Sinon, on se tape dessus, nous expliquez-vous de manière familière, ce dont les combattants de la Première Guerre mondiale, puis les combattants de la Deuxième Guerre mondiale, se sont aperçus, et c'est pour ça que l'Organisation internationale du travail a été fondée, donc 100 ans.
Oui, vous avez cité cette observation réitérée dans le préambule de 19 et puis dans la déclaration de Philadelphie, pas de paix durable sans justice sociale, parce que contrairement à ce que l'on pense, il y a une chose avérée, c'est que si on laisse prospérer de trop grandes injustices, ce qui est le cas à l'évidence du monde contemporain, cela engendre de la violence. Mais c'est rarement une violence révolutionnaire et sympathique, c'est une violence qui s'offre à toutes les récupérations possibles. D'où la nécessité d'avoir des règles du jeu communes qui assurent quand même un minimum de justice ou qui contiennent l'injustice, tant au niveau national qu'au niveau international. Et c'était donc l'objectif de la création de l'OIT. Et sa mission, c'est de définir des règles du jeu communes à tous les pays du monde. Ce n'est pas une mission de gouvernance, c'est une mission de législation.
Et avec donc un certain pragmatisme, vous l'avez dit, il fallait aussi, c'était une des forces de l'OIT, se prémunir contre le repoussoir du communisme, et ça nécessitait de donner un peu, vous avez employé le mot, un peu de justice. Et de créer des normes dans des domaines comme celui des salaires, comme celui du temps de travail, comme celui des accidents du travail, comme celui de la liberté syndicale, et ce dans un univers, c'est la première période de notre étude, et ce dans un univers tayloriste de mécanisation. Je vous propose de réfléchir un instant à cet extrait d'une adaptation d'un livre de Roger Vaillant, 325 000 francs. Nous sommes avec des hommes du fer, des hommes du feu, les aristocrates de la classe ouvrière qui n'aimaient pas nécessairement les surveillances et les normes.
Mais ça y est ?
Oui. Tu risques rien, tant que la grille est ouverte, le courant ne passe pas. Le moule ne peut pas se refermer.
Allez, n'aie pas peur.
J'ai pas de rien.
Ferme la grille d'abord.
Ferme la grille, ouvre la grille. On n'est pas des mômes.
Mais c'est obligatoire maintenant. Si les inspecteurs du travail rigolent pas là-dessus.
Oh, encore un truc de fonctionnaire.
Mais des mains coupées, des pattes coupées, t'en as jamais vu en ville? Tiens, mon oncle, un frère à mon père. Il a laissé sa main droite à l'âge de 18 ans. Là.
Et comment ça m'est arrivé?
Ben, je t'endormis avec la main dans la presse.
Ah, oh, ben alors évidemment. Faut être vraiment feignant aussi pour s'endormir avec un boulot comme ça.
C'était pas toujours bien vu les normes qui étaient censées protéger ceux qui souvent refusaient de les suivre ou de s'équiper comme c'était recommandé par l'Organisation internationale du travail ou ses mandants.
Mais souvent, on place, de même qu'aujourd'hui, on dit aux gens qu'il faut qu'ils soient absolument mobiles, mais surtout qu'ils ne dépensent pas d'essence parce que ça pollue le climat. On place les gens dans des situations d'antinomie. On leur dit d'un côté, il faut avoir le rendement maximal, et de l'autre, il faut prendre des précautions qui, évidemment, freinent le rendement. Donc ça, c'est une situation...
D'injonctions contradictoires.
Des injonctions contradictoires qui sont assez classiques, oui. Ce qui a marqué quand même le travail pendant ce moment taylorien, vous évoquiez tout à l'heure l'importance d'un imaginaire social à un moment donné de l'histoire. Le moment taylorien était dominé par l'imaginaire de l'horloge. On voyait le monde entier fonctionnant comme une vaste horlogerie, Dieu ayant été un horloger passager. Et on voyait le droit fonctionnant par des lois comparables aux lois de la physique, et le travail était considéré comme l'exécution mécanique de tâches prescrites de l'extérieur, ce qui était une rupture totale avec l'expérience antérieure du travail. Le mot ouvrier, par exemple, il vient de œuvre. C'est celui qui œuvre parce qu'il a incorporé en lui-même des compétences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et ce modèle laisse place à celui de l'ouvrier obéissant, celui que va mettre en scène de façon géniale Fritz Lang ou Chaplin. Dans ce schéma, il y a une masse de gens qui sont condamnés à un travail décérébré, et un petit nombre de gens qui sont payés pour penser. Et ceux qui sont condamnés à ce travail aliénant, on va négocier les compensations. Et c'est donc la justice sociale à ce moment-là est pensée uniquement et restreinte à un périmètre d'échange de quantité, les choses que vous avez citées tout à l'heure, les salaires, quantité d'argent, une durée de travail et puis conditions de sécurité physique minimales.
Parce qu'il ne faut pas que l'ouvrier perde la main, mais que le cerveau soit amputé n'a pas d'importance, parce que c'est celui d'un exécutant qui ne pense pas.
Oui, on connaît la formule de Taylor, répondant à une question que lui posait un ouvrier, vous n'êtes pas payé pour penser, d'autres sont payés pour cela.
Simone Veil, je parle de la philosophe que vous admirez et connaissez bien, a beaucoup réfléchi là-dessus dans cette époque. Elle écrivait sur la condition ouvrière, la vivant d'ailleurs dans les années 1930.
Oui, elle n'était pas la seule. Il y a eu un courant dans le mouvement syndical et politique pour dénoncer en disant, au fond, il y a ce qu'on prend en compte là, c'est l'exploitation économique. Mais il y a un autre phénomène qui est celle de l'oppression au travail par le fait qu'on ne permet pas aux êtres humains d'investir leur intelligence dans leur travail. Et l'injustice la plus grande, disait-il, c'est celle-ci, qui est d'ailleurs commune au régime communiste et capitaliste à l'époque, puisque du côté communiste, Stakhanov, on est dans le même imaginaire industriel. À l'époque, cette façon de voir a été défaite. Enfin, ce qui l'a emporté, c'est au contraire l'idée que la justice sociale, c'est seulement une question de gros sous, pour employer une expression de Simone Veil.
Alors, j'ai parlé de votre colloque de demain au Collège de France. Un colloque, il y a 2 ans, que vous animiez avec Pierre Musso, un colloque à Cerisy, dans la Manche, vient d'être édité par les éditions Hermann. C'est toujours sur le même thème, rendre humain le régime du travail. Et j'y ai noté 3 articles sur les chansons. Et ça nous a donné l'idée de passer à cet instant précis de l'émission avec vous, Alain Supiot, la ballade de John Henry. Nous sommes dans les années 1870 et c'est un monsieur qui a une force physique telle qu'il peut aller plus vite que les perceuses quand il s'agit de creuser un tunnel. Et un concours est organisé. Celui qui arrivera le premier de la machine ou de John Henry emportera la propriété du lot situé au bout du tunnel, et John Henry va l'emporter et mourir sur place épuisé.
Till I'm all going home. I don't want you.
Marche de l'Histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Chaque être humain éprouve le besoin de travailler pour faire quelque chose d'utile. Nous avons la ferme volonté d'obtenir la considération, la dignité d'un être humain.
Sur le parvis de Billancourt, un ouvrier resté anonyme et qui illustre parfaitement vos recherches, Alain Supiot, les thèmes du colloque que vous organisez demain au Collège de France sur le thème du travail à venir, comment rendre humain le régime de travail, c'est une vieille préoccupation de l'Organisation internationale du travail qui célèbre dignement cette année son centenaire. Vous avez le sentiment d'être soumis à un rythme d'enfer, là vous vouliez, dans une émission de radio un peu comparable au...
Non, je suis,
au rythme que nous évoquions.
Non, je suis soumis à une cadence. La différence est entre le rythme et la cadence. Ah. C'est pour ça l'importance que nous avions attachée dans ce colloque à parler des champs de travail, parce que le champ de travail illustre l'idée d'un rythme. Et dans le rythme, le travail, l'effort s'accorde à l'esprit, au corps de celui qui l'exerce. Alors que dans la cadence, eh bien, vous êtes soumis au rythme de la machine, si je puis dire. L'aliénation au travail et au taylorisme venait de ce que vous perdez la temporalité propre à votre effort. Et ceci s'accroît encore lorsque, avec les nouvelles machines dites intelligentes, à partir du moment où l'emprise n'est plus seulement sur votre corps qui doit suivre la cadence de la machine, mais sur votre cerveau qui est asservi aux signaux de la machine informatique.
Alors, nous sommes ici, ça sera un témoignage qui illustre bien votre propos, à l'aube de cette période de transition dans laquelle nous allons entrer. Nous sommes dans l'ouest de la France en 73.
Pendant plus de 3 mois, les 450 ouvrières de l'usine de Laspli à Fougères ont fait une grève des cadences, déchirant leurs fiches de rendement et ne percevant pour leur travail que le salaire minimum de base. Comme leurs camarades de Lévis à la Bassée, de Coframay à Schirmeck, de Thomson à Angers, de Gégère à Mondeville, elles refusaient les salaires liés au rendement et exigeaient que, sans freiner la production, chacune d'elles puisse travailler à son rythme personnel.
Oui, travailler normalement, selon nos capacités, quoi, notre pouvoir travailler, quoi, c'est ça. Bon, ben, si un jour on est en grande forme, ben, c'est bien, mais si un jour on est... Ça peut être un peu plus ralenti, mais enfin, de toute façon, travailler normalement sans être contraint de dire, bon, il faut que je respecte ces temps-là, c'est ça qu'on ne peut pas admettre, quoi.
Et alors, pendant ces 3 mois, comment ça se passait exactement? Vous arriviez à l'usine et qu'est-ce que vous faisiez?
On travaillait?
Normalement.
Mais enfin, dans l'ensemble, moi, je sais bien que personnellement, j'ai exactement fait le même nombre pendant la grève comme avant la grève. Parce qu'il y a, je n'avais pas à me dire, bon, il faut que j'en fasse tant et... Et au contraire, je trouve que j'avançais certainement autant.
Oui. L'encadrement, ben, ils sont plutôt pas tellement faciles, hein, parce que je dois dire qu'on est plutôt un peu menés comme des bêtes, si on peut dire.
Jamais la direction n'a voulu discuter sur cette question de travail à notre rythme naturel. D'ailleurs, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, elle ne comprenait pas ça. Et le directeur nous avait dit, moi pour moi, c'est des personnes qui veulent dormir, qui parlent comme ça.
Le rythme naturel. Le respecter, ça serait être feignant. C'est ce que dit le directeur aux ouvrières de Fougères. Alors maintenant, Alain Supiot, j'imagine que le travail de ces ouvrières de Fougères a disparu, et que celles qui leur ont succédé, ou ceux qui leur auront succédé, si du moins ils ont la formation nécessaire, sont devenus des cerveaux d'œuvre. Ce passage de la main d'œuvre au cerveau d'œuvre.
Oui, enfin, il faut... pas être hypnotisé aussi par la nouveauté, c'est-à-dire les conditions tayloriennes sur la surface du globe continuent d'être le lot d'énormément de travailleurs, de même qu'il y a encore quand même beaucoup de travail agricole. Alors cela dit, on doit prêter attention évidemment à ce qui est nouveau, et ce qui est nouveau, c'est effectivement l'asservissement du travail à nos nouvelles machines. Alors, ces nouvelles machines sont merveilleuses à beaucoup d'égards, mais elles nous font courir des risques qui étaient inédits dans le monde taylorien et qui se donnent à voir dans les statistiques de l'assurance maladie, c'est les risques d'atteinte à la santé mentale, qui, l'année dernière, dans le dernier rapport que j'ai lu, avait les affections psychiques, avaient, dans un contexte général de stabilité des accidents du travail, avaient été multipliées par 7 en 3 ans. Donc il y a une montée de ce qu'on appelle la souffrance au travail qui est directement liée aux transformations, non seulement le rapport aux outils, mais au fait qu'on projette d'une façon générale, c'est le nouvel imaginaire, on ne voit plus le travailleur comme un être subordonné qui obéit mécaniquement, mais comme un être programmable. C'est une impasse, parce que toutes les tâches programmables ont vocation à être exécutées par des machines avec le progrès technique. Donc cette impasse désigne aussi ce qui pourrait être une opportunité. Et c'est de revenir à ce que demandent ces ouvrières, c'est-à-dire à retrouver liberté, sens, maîtrise sur l'exécution de leurs propres tâches. Une différence importante avec l'ère taylorienne, c'est qu'il y avait quand même un petit nombre qui pensait, et eux, ils étaient libres des cadences. Et puis il y avait ceux, la masse, qui obéissaient. Aujourd'hui, tout le monde est pris dans les boucles de la programmation, y compris les dirigeants.
Parce qu'il faut sans cesse réagir à des signaux.
Les dirigeants politiques, c'est les signaux des indices de popularité, c'est les indices économiques, le PIB, etc. Donc, tout le monde est pris dans des boucles de rétroaction et non plus d'action. Il devient de plus en plus difficile d'avoir une action libre, y compris dans le monde de la recherche. C'est pourquoi nous avons besoin d'institutions un peu atypiques en matière de recherche pour essayer de sauver ce qui est le cœur. C'est un travail qui part de la capacité spécifique de l'être humain de faire surgir du neuf.
Ainsi, l'Institut d'études avancées à Nantes que vous avez fondé, c'est moi qui en fais la publicité pour vous dispenser de la faire. Oui, mais on est de plus en plus autonome et indépendant dans ce système que vous décrivez. Tenez, vos jeunes étudiants, entre 18 et 30 ans, au lieu d'aller à l'Institut d'études avancées de Nantes, iraient à l'école 42, l'école fondée par Xavier Niel. Ils retrouveraient dans une atmosphère de start-up quelque chose qui ressemblerait peut-être à la coopérative idéale du 19e siècle.
L'école est faite sur 3 étages et dans les escaliers, ça sent le gel douche. Il y a des serviettes de bain qui sèchent sur les rampes. On ne voit plus les rampes, en fait. Et c'est souvent près des douches qu'il y a les dortoirs.
Je dors ici que lorsqu'il y a vraiment un besoin et qu'il faut vraiment abattre du boulot. Ici, en tout cas, le cluster, ça va être les salles où on travaille, effectivement, où il y a tous les PC, tous les Mac qui sont alignés et tout le monde travaille dans cette zone. Donc c'est vraiment le cœur de l'école. C'est là où on passe le plus de temps. Donc là, vous pouvez voir les serveurs qui permettent en fait d'exporter toutes nos données sur ces serveurs-là. Et du coup, ça nous permet de switcher. On peut changer d'ordinateur. Il suffit juste de présenter un mot de passe et son identifiant. Et du coup, on peut se balader d'un Mac à un autre.
Où est-ce que vous allez m'emmener là maintenant?
J'avais prévu de me faire corriger.
Et vous, Julien?
Moi, je vais corriger quelqu'un.
Donc voilà, soit on corrige, soit on se fait corriger. Et tous les matins, on doit contacter les 5-6 personnes à corriger. Ah, j'ai plus de la musique là. Parce qu'on a le droit de travailler avec de la musique, c'est top ça. On a le droit de faire ce qu'on veut, on a aucune restriction. Si on veut ne rien rendre, on ne rend rien. Après bon, c'est assez risqué et péril, mais au final on est assez libre. Donc là, je crois que j'avais reçu un message normalement. Voilà, alors E2 R4 P10. Donc on va aller à E2 R4 P10. E2 c'est étage, R4 c'est la rangée. Sur la profondeur, et P10, c'est l'emplacement à partir de la gauche.
Là, on se déplace comme on veut. Si on veut dormir au travail pour être plus opérationnel le matin, on couche sur place, correction fraternelle à l'aurore, soit pour loi.
Soit pour loi dans un contexte où on a dû incorporer des disciplines... qui vont vous faire agir comme on attend que vous agissiez. C'est un petit peu les mots d'ordre du management contemporain. En effet, et avec ces effets que j'évoquais tout à l'heure, objectifs sur les questions de santé mentale, puisque, au fond, je crois que c'est Simone Veil, la philosophe, qui faisait cette remarque, que s'il fallait en même temps avoir cette fausse liberté et la subordination de l'esclave, ça serait trop, disait-elle. Et on essaie de combiner en ce moment une programmation rigoureuse liée à des objectifs chiffrés qui sont déconnectés de toute expérience réelle avec l'illusion d'un comportement autonome.
Vous parlez de gouvernance par les nombres, c'est le thème d'une année de cours au Collège de France, ça vient d'être publié chez Fayard, gouvernance par les nombres.
Oui, ben gouvernance, c'est pas gouvernement, de même que quand on parle d'éthique et plus de morale, ou on parle de régulation et plus de réglementation. Et ce qui disparaît dans chaque cas, c'est l'écart entre la personne et la règle. Elle est justement censée l'avoir incorporée. Et le fantasme, c'est celui d'une mise en pilotage automatique des affaires humaines, d'un monde où il ne serait plus nécessaire de penser, à vrai dire.
On commençait en évoquant une image du Moyen-Âge. Vous dites qu'on n'est pas revenu au Moyen-Âge, mais que les pratiques juridiques liées à la féodalité, on les retrouve peut-être à l'école 42 comme dans d'autres lieux comparables. Hommage, servage.
Oui, parce que le régime juridique dont nous sortons, qui était celui de l'idée du règne de la loi égale pour tous, aujourd'hui le droit n'est plus perçu comme ça, il est perçu comme un outil au service du calcul économique. Il y a un signe très patent de ça, c'est la difficulté de plus en plus grande d'avoir accès à un tiers qui va juger. C'est l'aspect, par exemple, dans les réformes du Code du travail, l'aspect le plus destructeur du statut des salariés, c'est la barémisation des indemnités et le fait qu'en réalité, maintenant, il devient de plus en plus difficile, improbable et inutile de saisir un juge. C'est des tendances qu'on observe dans d'autres pays. Mais c'est l'idée, il n'y a plus besoin d'une figure de tiers parce qu'on va avoir de l'ajustement mutuel par le calcul. Vous voyez, c'est ça. Et ce que je peux dire avec une assez grande certitude, c'est que ce genre de dispositif ne peut produire que de la violence.
Oui, vous dites que le bilan des 30 années de l'État-providence est sans doute discutable, mais que le bilan des 30 années après le moment néolibéral l'est encore davantage. Mondialisation, on n'a pas encore prononcé le mot. Vous le préférez à globalisation?
Oui, parce que tout ce qu'on vient de dire, ça sent un peu le pessimisme. Or, ces nouvelles machines dont nous parlons, elles sont merveilleuses. Elles seraient une opportunité de réouvrir cette boîte qui a été fermée par l'ère taylorienne, de rendre aux êtres humains une maîtrise sur le contenu et le sens de leur travail. Bon. Alors, mondialisation, globalisation, en effet, la langue française nous permet de distinguer les deux. Globalisation, c'est cette idée qu'il y a des lois du marché uniformes qui vont s'appliquer partout sur la surface de la planète. Et mondialisation, au contraire, c'est un mot qui vient du latin, excusez-moi, c'est pas trop compliqué à comprendre. Ça vient monde qui s'oppose à immonde, de même qu'en grec, le cosmos, qu'a donné la cosmétique, s'oppose au chaos. C'est-à-dire, mondialiser, c'est rendre cette planète habitable. Et ça pose tout de suite une question qui était absolument absente de l'horizon de Philadelphie comme de 1919, c'est comment penser un travail et une empreinte écologique du travail qui soit supportable par la planète.
C'est le thème, un des thèmes de votre colloque de demain et d'après-demain. Je rappelle encore un autre de vos livres, L'esprit de Philadelphie, la déclaration du printemps 1944. Philadelphia, excusez-moi, c'est du grec, c'est l'amour fraternel.
Absolument.
Alain Supiot. Merci à vous. L'émission était préparée par Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, Nolwenn Bokri. Et à la réalisation LISCOM, à la technique Gilles Gaillard. Et chez vous, Daniel Fievet.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour.
Chez nous, on s'intéresse à la population mondiale et à ses évolutions, migrations, vieillissement. Combien serons-nous en 2050 ?